Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir.
Bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans cette deuxième saison, je vais continuer à passer à la poêle des chefs au masculin.
C'est que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où les chefs doivent se réapproprier leur identité.
Et au féminin.
Je suis beaucoup plus créative avec un cadre que si on me dit « tu fais tout ce que tu veux et t'as tout le champ des possibles devant toi ».
Des gros stocks.
Il fallait que j'accepte de me mettre en danger à quelques moments de ma vie professionnelle.
Les plus petites.
C'est un peu l'angoisse du cuisinier aussi, c'est de montrer à nos anciens chefs ce qu'on est capable de faire.
Des cuisiniers d'ailleurs.
Donc la cuisine, c'est la possibilité de comprendre le monde et soi-même aussi.
Et quelques entrepreneurs de la restauration qui marquent notre époque. Dans cet épisode, je suis ravie de recevoir le chef Taku Sekin.
J'ai compris que si tu veux vraiment faire ce que tu as envie de faire, je me suis dit, donc, vas-y, montre un restaurant. Comme ça, il n'y a pas autre choix. Même pas investisseur. Évidemment, il faut avoir des prêts et tout, mais idéalement pas d'investisseur et tout. Donc, en fait, j'ai compris en ce moment-là. Dessus, c'était dans ce sens-là. Donc, dessus, c'était pas genre, OK, je me suis prêt, je me sens vraiment prêt, je suis plus fort que les autres, donc je vais ouvrir mon restaurant, ça va cartonner. Non, c'était juste
besoin de t'exprimer.
En fait, c'est ça. Donc, je me suis dit, si je veux avancer ce que j'ai envie de faire, au moins il faut ouvrir ton propre restaurant, même si c'est petit. Donc, c'était ça le début.
Pourquoi Taku? Parce qu'avec sa cuisine transfrontalière, il fait partie de ces chefs étrangers qui font bouger les lignes et apportent une autre dimension à la restauration. C'est devenu, en peu de temps, un des chefs qui compte à Paris. Et j'aime sa façon d'agir, décomplexée, sa façon de prendre de la hauteur sur l'assiette et sur le milieu. Avec Taku, nous avons parlé de rockstar, d'œil qui brille et d'association. Bonne écoute!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Bonjour Taku.
Bonjour Julie.
On s'était jamais rencontrés avant, je crois pas.
Je crois que oui, la Green.
Ah si, à la broderie.
Ouais, mais c'est rapide depuis.
Enfin bon, j'avais l'impression de te connaître parce que je te vois beaucoup sur les réseaux sociaux.
Et fooding, peut-être.
Et fooding. Ouais, tu es devenu un chef vraiment très influent de la gastronomie française avec 29 000 abonnés sur Instagram.
Comme ça, être un petit peu beaucoup, mais après, c'est pas moi qui décide, c'est... J'ai jamais essayé d'être influenceur. C'est vraiment les audiences qui, s'ils s'intéressent en bonne, c'est un truc simple. Puis, moi, je pense que je suis juste moins discret que les autres, quoi. Genre.
Tu considères que c'est un outil de travail, l'Instagram, ou?
Je pense que ça influe. Évidemment, ce que je pense, c'est quelque part, c'est lié au travail, c'est lié au restaurant, évidemment, ou sinon la vie personnelle. Donc, ça influe, mais c'est quand même pas ça qui est le but. Comme je disais, je suis juste moins discret, puis je m'amuse, puis ça reste là quand même. Donc,
tu fais des belles photos quand même.
Par contre, la photo, c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà, j'ai envie de partager la photo ou brillance de telle nourriture, même si c'est pas la mienne. Voilà, puis quand je voyage, c'est quand même, des fois c'est drôle de regarder telle cuisine ou les gens, ou même ça donne envie, puis moi, j'aime bien ce côté de partage. Même dans ma cuisine, c'est en fait, c'est plus ou moins comme ça, en fait, quelque chose que j'ai envie de partager. Que peut-être je sais, ma cuisine, c'est moins genre hype de monde entier. Ce n'est pas ça que je suis en train de faire, je pense. Mais moi, c'est juste la question de partage, je pense.
En 2014, tu as ouvert ton restaurant Dersou. Mm-hmm. C'était le premier restaurant parisien à faire des accords mets cocktails. Tu voulais te démarquer?
Ce que j'imaginais au départ, c'était genre, tu rentres dans un restaurant, dans mon restaurant futur, il y a un bar juste à droite, après tu passes un peu et tu passes à la table. Genre, donc je cherchais un petit peu le barman, et puis à moi, il était parfait parce qu'il était bon barman. J'adore son bar et j'adore ce qu'il fait. Mais après, donc, il était convaincu pour entrer dans ce projet. Puis après, quand même, si un barman qui est dans un restaurant, c'est... Voilà, c'est quand même dommage s'il ne bosse pas en dur beaucoup, s'il bosse à fond, etc. Donc, on a eu juste une idée d'intégrer dans le menu. Puis, comme ça, quand même, évidemment, ça fait forfait. Donc, ceux qui ne veulent pas, évidemment, ça fait plus cher que ce qu'ils veulent. Autrement, quand même, vu que c'est forfait, on peut servir un résultat ou un contenant assez stable. Voilà, c'était juste une proposition. Donc, ce n'est pas du tout genre, on fait ça le menu, donc ça sera le premier dans le Paris ou le premier dans le monde entier. C'était au final, mais c'était quand même l'intention assez naturelle, spontanée.
Alors, tu ne te rêvais pas du tout cuisinier quand tu étais petit? Tu te rêvais rockstar, j'ai lu rockstar, enfin musicien rockstar, on va dire.
Moi, j'aime beaucoup toujours la musique. Du coup, par hasard, j'ai des amis musiciens aujourd'hui aussi, genre Phoenix et Breakport. Donc ça vient de très très longtemps, genre quand j'étais petit j'adorais déjà la musique, et puis quand j'ai grandi, genre quand j'étais ado, je voulais devenir musicien, donc je faisais guitare. Et après cuisine, je pense qu'il y en avait toujours autour de moi, genre vu que ma mère et mon père, mes parents du coup, ils travaillaient beaucoup, donc je cuisinais beaucoup à la maison, tout con, genre bouillir la pâte et chauffer la sauce déjà faite, mais quand même, je faisais ça
de petit,
voilà. Ouais. Puis, week-end, genre, avec ma mère, je faisais crème caramel, et puis l'autre jour, ma mère, elle m'a dit, ça fait quelques mois, juste il y a quelques mois, elle m'a dit, tu as amené des crèmes caramel chez ma grand-mère parce qu'il y en avait trop, et je ne connaissais pas du tout cette histoire, par exemple. Donc, je pense qu'il y avait flamissement comme ça. Mais après, professionnellement, je n'ai jamais pensé à ça jusqu'à ce que j'avais presque terminé mon université. Puis, voilà, donc...
Comment tu y as pensé?
En fait, à l'université, j'ai appris politique et économie. Puis, évidemment, vu que c'est l'université, l'étude, c'est assez vaste. Donc, tu vas prendre un peu des fois la culture de grec ou la langue. Moi, je me suis intéressé beaucoup à la langue étrangère, comme genre italienne, espagnol, évidemment anglais, puis même coréen un petit peu. Puis, en ce moment-là, j'ai commencé à vraiment intéresser à la culture qui est autour de la langue ou à l'inverse. Mais du coup, je suis allé en Italie pendant pour cours 7 jours, ça veut dire deux mois. J'étais à l'école de langue italienne, précisément à Sienne. Et le matin, il y avait le cours de italienne. Et puis le soir, cette école, il proposait le cours de cuisine. Donc il y avait maman qui ne montrait la cuisine. Et puis j'ai adoré ça. Puis je pense que petite flamme que j'avais depuis petit qui était vraiment allumée, voilà.
Ouais.
ça a bouilli quoi, genre.
Et t'avais quel âge?
Là j'avais déjà 21 ans, je crois.
Et là t'es rentré au Japon et t'as dit à tes parents j'arrête tout, je me mets à la cuisine.
Du coup en fait c'était la fin de troisième année de l'université. Du coup, j'ai quand même décidé de finir l'université parce que j'adorais ce que j'ai étudié aussi, et puis j'adorais étudier déjà. Et du coup après avoir fini, je vais commencer à cuisiner. Et puis, j'ai dit à mes parents, ils étaient OK. Heureusement, voilà.
C'était pas... Parce qu'en France, la cuisine était moins aujourd'hui. Mmh. Mais par exemple, moi, quand j'étais petite, c'était assez mal vu. C'était la voie de garage, etc. C'était pas comme ça au Japon?
Plus ou moins, quand même.
Plus ou moins?
Genre, c'est quand même... J'ai étudié un truc quand même assez, comment on dit, assez compliqué. Oui. Puis déjà, changement comme ça, même j'ai fait super université, que je voulais vraiment entrer là-dedans. Puis j'ai réussi, j'ai même quand je suis entré, j'ai pleuré et tout. Puis après, 4 ans plus tard, j'arrive devant mes parents et voilà, donc je vais faire la cuisine après avoir fini. Puis j'ai pas trop raconté, ils m'ont pas demandé grand chose, mais je pense que j'avais les yeux vraiment sérieux, je pense, parce que mes parents, tous les deux, ils étaient dans leur passion. Ma mère, elle était à l'école maternelle. Je le sentais, j'ai jamais pris sa classe et tout, mais je le comprenais qu'elle aimait son travail. Mon père, c'est pareil, il était dans l'aviation, donc il travaillait pour Japan Airlines. Et il s'occupait de, comment dire, un labo, des labos. Puis depuis petit, j'étais beaucoup à l'aéroport. Je savais qu'il adorait ce qu'il faisait. Quand j'ai annoncé, ils m'ont compris comme ça, je pense. Puis j'ai pas trop parlé d'ailleurs, mais voilà.
Donc tu as fait une formation au Japon?
C'est ça. En fait, il y a deux phases. Donc après avoir fini l'université, je suis allé à Montréal pour vraiment maîtriser la langue française et anglaise. Parce que je me disais quand même, si je voudrais devenir vraiment le top de cuisine un jour, quand même, je vais sortir de pays un jour au moins, même si je rentre après. Puis donc, au moins, je maîtrise français, anglais, comme ça, je pense que je vais être peut-être pas mal pour travailler un peu partout. Puis donc, je suis allé à Montréal, puis j'ai passé 10 mois. Après, je suis retourné au Japon. Puis avant d'entrer chez Lucas, j'ai quand même tapé la porte de restaurant de la rue quand même... assez bien, puis un resto qui m'a pris, et puis j'ai quand même réussi à entrer dans ce domaine. Pourtant, quand même, au bout de 6 mois, j'étais viré parce que j'étais tellement pas bonne. Et, donc avant Lucas, en fait, j'étais viré une fois, puis, mais c'était pas mauvais parce que j'ai bien compris qu'à tel point j'étais nul, en fait, avec ce resto. Donc évidemment, je sors de l'université, j'étais à Montréal, je parle très bien français, je peux à la limite, je peux lire n'importe quel livre de français, même recettes et tout, meilleur que ce chef. Mais quand on parle de la langue culinaire, j'étais nul quoi. Donc je pouvais pas parler avec les produits, je pouvais pas parler avec, je sais pas, ce qu'il faut faire pour réaliser une recette ou l'assiette. Puis donc j'ai bien compris que un peu avec la même tête que j'avais à l'université, je me suis analysé, puis ok, j'ai compris, je suis très très nul. Donc voilà.
Donc t'as fait l'école?
J'ai refait l'école. Dit, ouais. Voilà, c'était un peu ça.
Et après, Alain Ducasse?
Après, du coup, pendant l'école, comme je voulais pas juste rester à l'école le matin et le soir, ok, j'ai fini, donc je vais aller voir copains ce soir. Non, donc j'avais chaque soir et tous les week-ends, j'avais fixé plein de travail à temps partiel, mais donc j'étais dans beaucoup de restaurants. Puis dans un restaurant, il y avait un chef qui était, c'était un restaurant de cuisine japonaise, Kaiseki, plein milieu de Tokyo. Puis ils m'ont parlé un jour l'ouverture de chez Lucas à Tokyo, à 2014, je crois. On m'a proposé de visiter la cuisine, peut-être que tu t'intéresses de travailler là. Je connaissais même pas Alain Lucas à ce moment-là, non. Puis j'ai visité, après le chef qui était là, ils m'ont proposé de faire un entretien parce que c'était le moment qu'ils cherchaient les chefs. Puis du coup, je suis passé en entretien, puis j'avais deux chefs, donc chef français et ce chef français qui était devant moi. Et le devoir c'était, j'ai lu la carte de Louis XV. Puis, donc j'ai lu en français, puis après j'ai expliqué ce menu comme si j'explique à ma grand-mère japonaise, donc en français d'ailleurs. Puis, donc ils étaient assez impressionnés par la langue que je parlais en ce moment-là. Je parlais toujours pas assez bien, mais ce que j'ai expliqué, par exemple, notion sur la cuisine, même par exemple tapenade ou kuhu bouillon et omar bouffeton, je connaissais ce que ça veut dire. Donc je pouvais expliquer. Pourtant, au quotidien et au niveau de pratique, j'étais tellement toujours nul, quoi. Mais en tout cas, ils m'ont pris, ok, on va te donner la chance, vas-y, débrouille-toi. Et puis, en tout cas, comme ça, je suis entré, je pense que je ne m'appelle pas exact, mais genre un 25e mec sur 25, quoi. Genre, voilà. Donc, j'ai tellement recommencé par zéro. Et puis, pourtant, de toute façon, si j'avais rien fait, je ne sais pas faire grand-chose. En fait, cuisine, même n'importe quoi, je pense, mais de toute façon, il n'y a pas de saute. Il faut juste apprendre un par un. Il faut qu'on doit mettre le temps. Il n'y a pas de saute. Donc, je suis plutôt content que j'ai commencé par zéro dans une bonne maison. Voilà. Donc, je ne regrette pas.
Et,
voilà.
Et tu te souviens ce que tu t'étais dit quand tu as commencé? Est-ce que tu te rêvais chef un jour? Tu rêvais d'avoir ton restaurant ou...
Déjà, je pense qu'en fait, quand on commence d'être chef, c'est tellement loin quand même. Donc, je me disais, à la limite, genre, j'étais même pas sûr si j'avais fait bon choix. À l'âge de 35 ans, est-ce que je peux vivre avec la cuisine, quoi, déjà? est-ce que je peux gagner pour vivre, genre, devenir chef, voyager après partout, faire consulting, c'est beaucoup plus tard, puis j'avais jamais imaginé ça, évidemment, quand on commence.
Et est-ce qu'il y avait des chefs que tu admirais? Parce que tu dis que tu connaissais pas Alain Ducasse, est-ce que tu qui c'est qui te faisait vibrer?
En fait, oui, j'en avais deux. Vu que j'étais à Montréal, puis vu que je savais que je voulais devenir chef, donc je tapais un peu bouquin anglaise pour apprendre justement pour le monde de cuisine et tout. Donc j'ai lu le livre de Daniel Brühl de New York. Puis à ce moment-là, j'ai admiré Alice Waters aussi. Puis du coup, en fait, c'est deux qui étaient un peu les seuls que je connaissais. Mais en même temps, c'est les deux qui étaient genre, pour moi, c'est idole. Ouais. Puis après, genre, 8 ans plus tard, j'ai rencontré Daniel Brühl à Los Angeles dans un événement où j'étais invité. Mmh. Et Daniel Brühl, c'était la veille. Puis le lendemain, c'était la soirée de mienne. Donc en fait, on est allé au Corianta ensemble et tout. Donc c'était cool. En fait, comme je savais, j'ai amené un bouquin que j'ai acheté à Montréal pour qu'il le signe. Puis il a regardé, putain, t'as la première édition, c'est hallucinant parce que c'était 2013 justement où j'étais. 2003 quand j'étais à Montréal, donc j'ai bien expliqué. Et après Alice Waters, c'est pareil, c'était un peu compliqué. Ils m'ont répondu quand même. C'était à l'époque de demander envoyer ton CV par la poste.
Oui.
Ils m'ont appelé quand même sur mon portable. C'était 5h du matin. Donc, ils m'ont appelé, ils m'ont proposé de venir en Californie pour faire un interview en tant que stagiaire. Puis, oh, j'ai pas assez d'argent. Donc, non. Genre, là, j'ai pris le restaurant de Tokyo.
Et à quel moment t'es venu à Paris?
J'ai passé 3 ans et demi chez Alain Ducasse, qui s'appelle Beige Alain Ducasse Tokyo. Et j'ai passé pendant 3 ans et demi. À la fin, je voulais quand même bouger, à l'étranger surtout. Et donc, j'ai commencé à parler avec mon chef et tout. Et donc, ils m'ont proposé un poste au Plaza Athénée à Paris. Donc, c'était ça.
Et ça te faisait rêver, Paris? Ça représentait quelque chose?
Oui, mais je rêvais d'ailleurs aussi. Donc, comme New York ou Los Angeles, je rêvais un peu. Il n'y avait pas trop de discrimination par rapport à ça. Donc, Paris, c'était plus naturel. C'est arrivé comme ça.
C'est le hasard qui t'a amené
ici. Ouais, un peu ça, ouais.
Et qui t'a retenu après, parce que t'es passé chez Hélène Darroze. T'as fait quand même un petit tour du monde des restaurants.
Donc, au bout d'un an chez Ducasse, quand même, je voulais pas quitter Paris en ce moment-là. J'ai adoré marcher, genre, surtout... Thiébault. Thiébault, tout ça, j'ai adoré. Genre, au week-end, j'ai acheté les légumes, je m'éclatais. C'est quoi, carottes qui sont pas oranges, quoi, genre. Puis, pendant la saison de juillet, acheter lièvre, ça coûte pas grand-chose. Donc, on faisait des terrines pour 30 personnes, mais on était 3. Et, tu vois, on mange une tranche, j'étais déjà plein. Mais c'était un peu ça, l'activité de week-end. Pourtant, j'avais déjà fait à ce moment-là 4 ans et demi de chez Ducasse. Donc, j'ai bien appris. Et puis, pour moi, aujourd'hui, je peux résumer que chez Ducasse, c'était 2e université que j'ai fait dans ma vie. Puis après, quand même, je ne pouvais pas encore parler couramment la cuisine. Donc, en fait, je allais voir cuisine un peu plus courante. Ça veut dire entre gastro et cuisine française. Cuisine maman même. Ouais. Donc en fait, c'était, même chez Hélène Darroze, c'était pas exprès. Je suis allé boire par hasard, j'ai mangé, puis c'était très très bien. À l'époque, il y avait un chef qui s'appelle Frédéric Ducas. En fait, j'ai adoré ce qu'il fait. J'ai tapé la porte pareil, donc j'ai demandé de commencer chez eux. Mais au départ, c'est quand même, à ce moment-là, j'avais pas le visa assez blindé, donc au début, je suis entré en tant que stagiaire. Vraiment, sans vraiment visa et tout. Puis Hélène, elle m'a proposé, genre, au bout d'un mois, si tu travailles bien, on va faire visa et tout.
Papier,
voilà. Puis au bout d'une semaine, ils m'ont appelé au bureau et c'est bon, on va faire. Voilà. Donc, grâce à elle, je suis toujours en France. Puis c'est eux qui ont sponsorisé tout début. Puis donc, je dois beaucoup à Hélène toujours.
Tu es resté longtemps
là-bas. 3 ans, j'en ai fait 3 ans. Ouais. Ouais. Puis après, donc, pourtant, j'avais passé 4 ans à Paris à la fin de séjour de chez Hélène Darroze. Toujours quand même le goût d'être ailleurs que tu y es, tu vois. Donc, je voulais quand même voir ailleurs. Donc, j'ai commencé à me poser la question, genre, peut-être pas Paris, parce qu'il y a Copéa, ça venait commencer. Pareil, New York, et surtout, c'était l'époque de Brooklyn. Et c'était à même Thaïlande, même, par exemple, Hong Kong, ça commençait aussi. Donc, je voulais voir tout ça. Si je vais toutes les villes comme ça, si je vais un par an, ça va prendre trop de temps. Donc, c'était pas vraiment genre, OK, je vais faire le tour du monde, genre avec backpack. C'est juste... Je voulais voir tout ce qui se passe un peu dans les pays, dans les villes importantes,
qui bougeait,
efficacement. Ouais. Voilà, ouais. Donc j'ai connecté tout. Donc, parti de Paris, je suis allé à Istanbul. Après, je suis allé à Nice pour prendre l'avion pour Tel Aviv. Après, je suis allé en Suisse pour escale. Après, Bangkok, Vietnam et l'Inde. Après, Singapour.
Et t'as travaillé à chaque fois dans les pays?
Non, c'est manger. Tout à l'heure, je venais manger, puis marcher ma chemin pour que je mange plus, en fait.
Ouais.
C'est resto, j'ai fixé. Donc, en fait, je dormais même dans l'auberge de jeunesse. Et après, par contre, le midi, 3 étoiles.
Tu voulais vraiment emmagasiner plein de goûts, de nourriture.
Ah oui, carrément.
Le plus possible. Te nourrir à tous les niveaux.
Et pourtant, pendant l'université, je voyageais beaucoup. Pendant l'université, je travaillais dans un restaurant italien familial très, très bon. En fait, avec cela, je voyageais assez souvent, je veux dire. Par exemple, en Asie, surtout, j'allais souvent genre, à Hong Kong, Vietnam, Corée. Ça coûtait rien à l'époque, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et je voulais visiter l'endroit que j'avais jamais fait, comme Tel Aviv ou comme Sydney. Mais en même temps, je voulais revisiter ce genre de pays aussi parce que j'avais voulu l'odeur qu'ils avaient. Je savais que c'était magnifique, mais j'avais presque voulu. En même temps, en venant à Paris, j'avais pas le sou, je pouvais pas demander 2 semaines de congé comme ça, évidemment non. Et oui, évidemment, on a des vacances, mais j'ai quand même envie de retourner au Japon aussi, donc j'avais pas vraiment l'occasion comme ça. Donc pour ça, je me suis dit genre stop, et puis j'avais un petit peu d'épargne minimum, donc j'ai acheté billet, je suis parti.
Après ce voyage, t'ambitionnais de retourner au Japon ou tu savais que t'allais revenir à Paris?
En fait, en partant de Paris, je me disais, ok, je pars, j'ai ma grande valise dans l'appart où j'étais. En revenant, je les prends, je pars à New York. C'est ce que je me disais en partant. Donc je voulais très bien déménager à New York. Et genre, je rêvais un petit peu de cuisiner dans un restaurant à Brooklyn, quoi.
Ça s'est pas fait.
Non, non, donc au final, non, on sait très bien. Mais en passant à New York, donc j'ai fait 2 stages à New York aussi. Après, je suis retourné à Montréal juste avant que je revienne à Paris. Puis j'ai vu mon ex à Montréal aussi. Puis elle m'a dit peut-être c'est pas con que tu continues un petit peu ce que tu fais en tant que chef à Paris. Après, pourquoi pas tu reviens à New York? C'est quand même dommage que tu fais pas le job de chef. Et c'est trop. Et donc, elle m'a quand même un petit peu poussé mon dos. Et donc, je restais un petit peu.
À Paris. Donc, tu as travaillé où en revenant?
En revenant, du coup, j'ai envoyé un message à Zubin Chercher de Saturn. Vu que j'allais tout le temps, comme ça, on s'est connus aussi. Zubin, il avait besoin de quelqu'un. Puis, j'ai expliqué en même temps. Donc, Zubin, en revenant, je vais me mettre en projet pour ouvrir mon restaurant. Mais pourtant, je ne veux pas attendre les nouvelles d'agent immobilier à la maison comme un con. Donc, j'ai quand même envie d'apprendre même en entendant. Donc, il a dit, ouais, il n'y a pas de problème, tu peux te casser, même si t'as rendez-vous, visite, même 2 heures pendant plein milieu de service, tu peux y aller. Puis, je sais comment ça se passe quand tu es en projet. Donc, c'était très, très gentil. Pareil, je dois beaucoup à Sven Schaftier. Même culinairement, j'ai énormément appris. J'ai compris qu'on peut cuisiner autrement. On peut cuisiner hors de contexte qu'on a appris. C'était vraiment une dernière bonne push avant que j'avais monté mon restaurant.
Ah, c'était juste avant Andersou.
C'est ça. Après, en fait, vu qu'ils ont ouvert Columbar...
Oui.
Presque même moins que des sous-saoubres. Donc, je suis allé aider
à l'ouverture.
Sota, ouais. Donc, voilà.
Et donc, quand tu es revenu de ton voyage, tu avais déjà... Enfin, c'est vrai que tu avais ce projet d'ouvrir ton restaurant à Paris.
C'est ça, ouais.
Et donc, tu te sentais prêt. Ça faisait à peu près... J'ai regardé ton CV. Ça faisait à peu près 10 ans d'expérience professionnelle.
Donc, ouais.
Tu t'es senti prêt?
En fait, c'est plutôt... J'étais prêt dans un sens négatif. Avant d'aller voyager, j'ai fait 1 an de poste de chef dans un resto qui s'appelle Fischer Watson Hee. Plus ou moins, c'est mal passé. parce que je voulais faire un peu comme un fou, je vais faire ça, je vais faire ci. Puis après, il y a quand même Proprio, donc c'est pas chez moi, quoi. Donc évidemment, je pouvais pas faire tout ce que je voulais. Et c'est tout à fait normal, je comprends très bien. Voilà, donc j'ai compris que si tu veux vraiment faire ce que tu as envie de faire, je me suis dit, donc vas-y, montre un restaurant. Comme ça, il n'y a pas autre choix. Même pas investisseur. Évidemment, il faut avoir des prêts et tout, mais idéalement pas d'investisseur et tout. Donc, en fait, j'ai compris en ce moment-là. Dessus, c'était dans ce sens-là. Donc, dessus, c'était pas genre, OK, je me suis prêt, je me sens vraiment prêt, je suis plus fort que les autres, donc je vais ouvrir mon restaurant, ça va cartonner. Non, c'était juste,
besoin de t'exprimer. En fait,
c'est ça. Donc, je me suis dit, si je veux avancer ce que j'ai envie de faire, au moins, il faut ouvrir ton propre restaurant, même si c'est petit. Donc, c'était ça le début. Donc,
Et comment tu expliques le succès? Est-ce que c'est dû au fait que, on a dit tout à l'heure, est-ce que c'était le premier restaurant qui faisait des accords mets et cocktails ou autre chose? Enfin,
je pense que j'ai jamais été client, mais je pense qu'on peut aimer cette expérience ou autrement. Je pense qu'on peut aimer tout simplement bonne cuisine, bonne boisson. Voilà. Je pense qu'en fait, on fait vraiment les choses assez authentique. Donc, en fait, ce qu'on dit avec Amaury toujours, c'est au moins on sert les bonnes choses. Après, si ça marche ensemble ou pas, c'est deuxième étape, en fait.
Est-ce que c'est difficile d'être étranger quand on veut ouvrir un restaurant? Au niveau de l'administration, au niveau des prêts bancaires, est-ce que ça t'a...
On peut dire oui, je pense.
Poser des difficultés?
Parce que déjà, l'histoire de papier... Ouais. Par exemple, Atsushitanaka, je pense qu'on peut dire ça, mais il a acheté son fonds de commerce avant d'avoir ses papiers. Imagine, s'il ne peut pas avoir les papiers, comment tu cuisines chez toi? Et donc, il y a ce genre d'histoire. Puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'avais pas papiers avec lesquels je peux devenir président de la société. Mais après, ce n'est pas grave, j'avais des bons papiers pour être salarié. Mmh. Mais quand même, même si j'avais investi sous, même si j'avais des prêts, c'est quand même un peu risqué d'être dans une situation comme ça. C'est quand même mieux, si c'est chez moi, je pense que c'est mieux que je suis propriétaire de la société ou le lieu. Donc, par exemple, je pense que si vous êtes français, vous pouvez jamais poser la question comme ça parce que ça ne sert à rien. Et c'est un truc automatique, quoi. Donc, on se pose ce genre de questions. Mais après, ça, c'est pas très, très grave. Ça se fait avec le temps. Voilà. Donc, ça se fait. Puis, de toute façon, monter un restaurant, c'est beaucoup plus que ça.
Ouais, c'est pas un point bloquant.
Voilà, il faut avoir des courage pour plus de choses. Donc, par exemple, l'histoire de papier, oui, c'est assez conséquent. Mais il y a plein de choses à attraper avant ça. Genre, je sais pas, tu veux...
Trouver un fonds de commerce.
Bah, trouver un fonds de commerce, tu peux acheter super vaisselle, mais tu sais même pas si tu remplis ton restaurant. Donc, tu te poses la question, on achète une vaisselle pour 1000 euros, mais peut-être mieux que tu achètes 1000 euros de canard parce qu'on peut servir. Mais l'assiette, ça se mange pas. Et genre, puis on a plein de questions spontanées comme ça dans la tête tout le temps jusqu'à ce que ça se remplit. Puis une fois rempli, c'est autre chose. On sait qu'on peut travailler comme ça. C'est un peu assumé. Mais avant ça, quand même, évidemment, en tant qu'étrangère, il y a certes blocage ou un petit peu de mur à confronter. Mais sinon, autrement dit, vu que j'étais étrangère, donc même si je fais un truc assez normal pour cuisine japonaise ou cuisine quotidienne au Japon, par exemple. Puis les gens, ils disent, par exemple, genre onigiri, c'est un truc tout con, c'est, on fait comme ça. Par exemple, vu que c'est quand même un truc étranger pour la France, donc il y a des gens qui disent mais c'est meilleur onigiri que j'ai mangé. Non, 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 c'est jamais meilleur onigiri du monde entier. Mais il y a des gens qui apprécient ces choses. Donc je pense que, en fait, être étranger, évidemment, on peut dire qu'on peut avoir la situation plus difficile que les autres, mais quand même, on peut avoir tellement d'avantages aussi. Donc c'est juste la condition donnée, en fait. Donc, voilà.
Alors, j'ai une petite tradition dans ce podcast, c'est que je fais une interview dans l'interview. C'est très facile. Et pour répondre un peu du tac au tac, ton âge?
37.
Ton signe astrologique?
Sagittaire.
Ton plat signature?
On me dit c'est Boyu Taipei style.
Avec les grosses nouilles.
C'est ça, ouais.
Ton plat préféré?
Ramen, je pense.
Le chef que tu admires le plus aujourd'hui?
Joatiu de Holyfuck, à Hong Kong.
Ton ingrédient préféré?
Huître.
Ton ingrédient détesté?
Ananas.
L'ustensile que tu préfères?
Couteau, on peut dire pas.
Oui. Ton dernier meilleur repas?
Sushi Kimura à Tokyo, qui font matcher les poissons et tout, c'était magnifique.
Le resto que tu aurais aimé ouvrir?
En face de la mer.
De la mer japonaise?
Ça peut être californien, ça peut être méditerranéen, à côté de la mer.
La mer. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait?
C'est par Christian de Phoenix. Ils m'ont dit, ta cuisine c'est inexplicable, incompréhensible.
Ouais.
C'est comme, je sais que c'est très bon, mais on peut jamais, genre, cadrer ta cuisine. Et puis, j'étais super content parce que leur musique, c'est exactement comme ça. Puis en fait, je me suis dit, ces gens-là qui se... en fait, qui s'échangent comme ça, et puis c'était drôle quand même.
Et donc la pire critique?
Plein. Je pense que même s'ils parlent pas, on comprend souvent. Genre, les œufs qui disent, genre, moi j'ai pas aimé ta cuisine, genre, ils partent comme ça sans dire au revoir et tout. Ça peut arriver. Peut-être il est content, mais je pense pas parce que les gens ils réagissent pas comme ça. Donc là, c'est même sans parler, ça me pique quand même. Ça peut arriver. Parce que la cuisine ou n'importe quelle culture, des fois c'est question de matching. Puis, cuisine, une partie fondamentale, c'est pour nourrir les gens. Mais après là, pourquoi on paie des fois plus cher qu'ailleurs? C'est parce que on propose une expérience au-delà de genre, ah, moi j'ai rempli, donc c'est bon. Mais quand même, ils sont en train de payer pour l'autre expérience qu'ils espèrent. Puis, j'espère que ça marche bien. Et puis, si ça marche pas, tant pis, ça marche pas. Donc, en ce moment-là, évidemment, les gens peuvent être mécontents. Et puis, voilà, j'espère que ça arrive moins. Mais en même temps, je peux pas faire, voilà, pour tout le monde de toute façon.
Enfin,
voilà. Donc, on essaie de faire mieux, mais ça peut arriver. Voilà.
Bon, on va reprendre les questions normales.
Ok.
Qu'est-ce que représente la cuisine pour toi?
Je pense qu'un peu ma vie parce que j'aime tellement, je suis tellement content que j'ai choisi ce métier. À la limite, je peux ne pas avoir le restaurant un jour, mais je pense que la cuisine, je n'arrête jamais, je pense.
Tu pratiques tous les jours?
Je fais tout le temps, je suis toujours resto. Et puis évidemment, je peux être absent, mais je cuisine tout le temps. De toute façon, soit la question c'est, je cuisine à des fois, même si je ne suis pas à des, ça arrive de temps en temps. Et puis je cuisine à Tokyo, en Californie. Puis
c'est un j'adore. Besoin. T'adores vraiment être derrière les fourneaux.
Bien sûr. Ouais. Puis, par exemple, après la vacance d'été, genre 4 semaines de vacances, puis j'ai tellement pas envie de travailler, mais j'ai tellement envie de cuisiner. Donc, je suis tellement content que la cuisine qui est autour de moi. J'aime même le food plus que la cuisine. J'aime tout ce qui se passe autour du food. Donc en fait, je peux être très très content juste de regarder le marché comme ça, même sans toucher. Je suis déjà au courant avec ça.
T'as trouvé ton univers.
En fait, ouais. Je pense que j'avais choisi bon métier.
Et donc tu as grandi au Japon. T'as appris la cuisine en France. Dans la cuisine française. Et est-ce que ta cuisine, elle a une identité, tu vois, elle est rattachée à peut-être un pays, ou c'est la somme de toutes ces influences?
C'est plutôt somme. Je pense que ma cuisine que je propose aujourd'hui, c'est pas proposition, c'est vraiment ma cuisine, c'est quelque chose qui sort de ce que je pense, ce que j'ai envie de partager et tout. Donc évidemment, c'est attaché à ma vie plutôt que. En plus, je peux plus dire. Où j'ai eu ce sentiment, où j'ai eu cette technique que je peux presque plus dire. Donc en fait, c'est très aléatoire, vu que j'ai beaucoup bougé aussi. Et donc ma cuisine, c'est tout simplement, c'est à moi. Et ça veut dire que je suis japonais, puis j'ai vécu quand même pendant 27 ans là-bas. Je retourne souvent aussi. Puis évidemment, il y a beaucoup de liens avec le Japon, oui.
Et d'autres pays asiatiques.
Évidemment aussi,
ouais,
par exemple,
que tu as visité. Enfin, ça t'a nourri, ton voyage,
ouais,
autour du monde.
Justement, ouais.
Tu sens que t'as trouvé, toi, ton univers.
Je le sens,
ouais.
Aujourd'hui, je le sens. Ouais. Depuis presque, je pense que depuis un an et demi. Puis j'ai quand même trouvé quelque chose que j'aime. Puis peut-être même au début de Dassault, je faisais ça, je faisais ci, parce que un peu comme ça, ça sera mieux pour ça, 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 pour le menu, machin. Puis aujourd'hui, je peux presque dire, je fais pas ça parce que j'aime pas, je fais pas ça parce que c'est pas comme ça qu'il faudrait. Puis pourtant, la cuisine, ça s'évolue, ça veut dire pas que je m'arrête maintenant, mais en fait, j'ai compris ce que j'aime. Pas un plat, genre, mais j'ai compris
ce que t'avais
j'ai compris
de faire,
ce que ou... j'aime comme, ouais. comme la façon, comme philosophie, comme le goût aussi, peut-être. Puis j'ai bien compris aujourd'hui.
Est-ce que tu cuisines ce que tu aimes manger?
Évidemment, je peux pas tout cuisiner, mais en général, j'aime bien manger un peu tout, sauf mauvaise cuisine. Mais après, de toute façon, je peux pas tout faire, donc. Mais par exemple, quand j'ai commencé la cuisine, ce que je me disais, c'est. En fait, si je sais faire la sauce pour tout, je peux faire ça à la maison aussi, parce que voilà, quelqu'un qui doit faire. Puis c'est ça qui m'a un petit peu motivé. Puis même à la maison, au départ, je faisais fond de veau pendant le week-end. J'ai réduit, j'ai congelé dans un truc de cube de
glaçons.
Ouais. Puis le soir, je rentre de restaurant et t'es fatigué, mais je rôtis cuisses de braille qui sont désossées, congelées. Je rôtis à la poêle et j'ai balancé ce fond de veau dans ce poêle-là. Une goutte de citron et puis je mangeais comme ça. Puis j'étais content parce que, ah ok, je sais faire ça aujourd'hui, c'est cool.
Est-ce que tu as la création facile?
Je pense que plutôt oui. Je mets pas pendant un mois de casse-tête, non. Évidemment, il faut beaucoup réfléchir. Mais j'aime bien le côté quelque chose qui vient de naturel. Je garde les deux. Donc.
Est-ce que tu t'interdis des choses en cuisine?
Pas vraiment, mais certaines choses que j'aime pas trop, genre vanille. Il y a même pas une gousse de vanille à dessus, par exemple. On n'aura pas chez Chevalier d'Or non plus, mais en fait, je trouve que oui, on peut dire que c'est oui, mais ça devient de tous un peu identique et tout. J'espère qu'il y a tous les chefs pâtissiers qui vont pas l'écouter, mais je n'aime pas trop. Voilà. Donc voilà.
Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois?
Je pense que c'est un peu arrogant de dire, mais on va au restaurant tout le temps, puis on mange, on dit ah c'est très bon, c'est intéressant, ah on cuisine comme ça et tout. Puis après un jour on commence à se dire tu vas au restaurant, mais il y a que 1 sur 3, 1 sur 5 qui est bonne. Donc, peut-être je peux faire quelque chose dans ce domaine. Bon. Au départ, quand même, quand je connais rien, un peu tout est bon, quoi. Mais commence à avoir ce genre de sensation. Puis, je pense que c'est un peu pareil pour tous les chefs. Mais...
C'était quand c'est là que tu t'es dit, ça y est, moi je suis chef aussi, parce que je sais.
Mais après, ça reste genre. Donc, c'est un peu arrogant de le dire, mais genre, t'as une petite grosse tête qui dit peut-être moi je peux cuisiner mieux que tel resto, tel resto, tel resto. Donc, ça sera peut-être bien que je reprenne le poste de tel resto et il y a prodé et tout. Et puis, comme ça, on le considère peut-être. Ou autrement, tu montes tellement d'échelles, comme ça, on l'attrape quand il n'y a plus de chef. Et. Si chef il part ailleurs, c'est toi chef, donc ça peut être comme ça aussi, mais un peu ça quoi.
Et tu te souviens quand c'était?
Plus ou moins, mais c'est pas sur une journée, c'est genre pendant
période...
un an, je me sentais un peu comme ça, peut-être je peux faire un chef quelque part.
C'était vers quelle année?
C'était un peu la fin de chez Darose.
T'étais second à l'époque?
Ouais, chez Darose, j'ai fini par seconde. Pourtant, si tu regardes à l'étranger, il y avait déjà Noma et Henné, tout ça, puis tu te sens vraiment minuscule par rapport à où, même devant Pierre Gagné et tout, t'es évidemment encore nul. Mais genre, on comprend que on s'évolue quoi, un petit peu quand même, au bout d'un moment.
Quel genre de chef es-tu dans ta cuisine?
Je pense que je suis un chef qui manage beaucoup. Donc ça peut être sérieux, mais je gueule presque pas. Surtout aujourd'hui, genre depuis 2-3 ans, j'ai super équipe. Donc plutôt, la question c'est vraiment manager. Même si on change le menu tous les jours, on peut manager très bien. Puis parce qu'en fait, dès que t'es pas tout seul, dès que je suis plus tout seul, en fait, surtout quand on travaille 3, 4, 5, en fait, au lieu que je me pousse comme ça, ok, donc je fais beaucoup de choses, donc le restaurant on a eu un meilleur résultat dans le menu. C'est plutôt, il faut vraiment penser à ce qu'ils peuvent aujourd'hui, ce qu'ils peuvent faire à la fin de la journée. Et si on manage bien, on peut avoir un meilleur résultat dans totalité. Mm-hmm. Puis, je casse beaucoup la tête là-dessus. Et je pense que c'est très important. Et puis, c'est quelque chose que j'ai appris chez Lucas. Et puis, le restaurant, c'est très, très bien fait pour ça. J'ai bien appris ça, quand même.
Est-ce que tu te sens cuisinier, chef, restaurateur?
Cuisinier, absolument. Parce que j'aime beaucoup cuisiner. Après, évidemment, il y a des travaux qu'il faut faire, il y a des papiers à faire, etc. Mais je me sens un cuisinier, surtout pas vraiment un restaurateur. Oui, je pense que je me catégorise un petit peu restaurateur, surtout quand on commence à avoir plusieurs. Mais pour ça, je prends toujours un associé qui a dans ce domaine, genre Ramon Guillaume et Florent Schkoli. Ils sont forts sur les choses administratives. Puis moi, je suis toujours nul. Puis je comprends, mais je veux être un peu plus artiste dans la journée. Genre, au lieu de compter factures, je préfère faire une sauce en plus. Je préfère comme ça. Donc, j'essaie de m'organiser, d'être cuisinier. Mais il y a des jours où il faut que je fasse des choses comme ça. Puis ça peut arriver.
Tu évoquais le Cheval d'Or qui va pas tarder à ouvrir. Peut-être que quand l'épisode va sortir, ce sera déjà ouvert. Mais non, peut-être pas. C'est quoi, fin novembre sera...
Ouais, au plus tôt. Ouais.
Au plus tôt.
Donc, peut-être en...
Début janvier.
Ah bah Noël, on espère. Il a trois dits comme ça. Ouais.
Alors, qu'est-ce que ça va être?
Ça va être... La cuisine, franchement, j'ai pas encore la tête parce que c'est toujours sur le jeu même et tout. Mais surtout, je veux bien proposer le style parisien. Donc en fait, on mange tous ensemble et puis donc ça va être un peu festif. Du coup, c'est beaucoup à la carte. Mais,
plus simple que Dersou ou...
Je pense que le côté cuisine, je sais pas trop dire parce que même... Même si j'ai envie de faire ramen, je complique souvent. Donc, un bol de ramen, mais des fois, c'est plus compliqué qu'un plat. Genre, donc, simple, ça veut rien dire, mais au moins, je veux bien un style parisien, un style plus simple, façon de manger, ou un restaurant plus populaire, je veux dire. Quand tu as envie d'aller à Cheval d'Or sur un coup de tête, on a l'accès.
Puis il y a la place, voilà, tu peux y aller.
La place un peu plus grande déjà. Et pour y aller, par exemple, je viens garder une partie sans réservation. Mm-hmm. Mais alors que je n'ai pas toujours envie d'aller au resto sans réservation quand tu es fatigué dimanche soir. Mm-hmm. Voilà, je n'aime pas ça non plus. Donc, je veux bien garder les deux côtés. Et en même temps, même façon de manger, quand tu n'as pas faim. Mais des fois, quand tu es tout seul à 19h dimanche, tu as faim, mais tu n'as pas trop envie de manger, mais tu as envie de manger bonnes choses dans un bon restaurant. Donc, ça peut être ça. Je vais aller. Ou alors que dimanche soir, par exemple, je parle beaucoup dimanche soir parce que je sors beaucoup dimanche soir.
C'est le soir où tu sors au restaurant.
Donc, avec les amis, on va péter des bouteilles avec vos nourritures et tout. Donc, tu peux commander plein de choses. On serait prêt pour ça aussi. Donc, je pense que ça n'a rien que je parle de ticket moyen de ce restaurant. Ouais. C'est vraiment, je veux bien proposer des diversités en termes de manière de y être, manière de manger. Tu peux être
assez ouvert à...
c'est ça, assez ouvert pour tout. Et puis pour ça on a fait beaucoup d'attention pour ce projet de ne pas trop dépenser de départ même l'histoire de commerce, l'histoire de loyer, l'histoire de travaux et tout. Comme ça en fait on est moins stressé au niveau de chiffre d'affaires qu'il faut vraiment attendre sinon ça va couler et tout. Donc resto, c'est déjà avant de penser la recette, en fait, le resto, c'est déjà fait pour ça. Donc, les gens, ils peuvent venir pour vraiment un plat comme ça ou plus de plats comme ça. Et surtout, genre, quand les gens ils arrivent, devant les clients, il y a déjà une petite assiette et belle serviette et des baguettes. Puis, c'est déjà là. Puis, plat, ça arrive juste au milieu de table, au fur et à mesure. Puis c'est ça le style de ces restos. Puis après, dans cette assiette, peut-être tu peux avoir homard au bouffeton, ou alors que tu peux juste avoir légumes de la liberté en sauté. Donc voilà, c'est ça ce que j'ai envie de faire. Puis ça peut être très varié.
Beaucoup de nouilles?
Nouilles, voilà. Nouilles aussi, mais beaucoup de riz, beaucoup de vapeur.
Ok. Est-ce que tu as besoin d'être dans un bon mood pour cuisiner?
Oui, surtout j'ai besoin de dormir.
Ah oui?
Même si je sors, j'ai quand même besoin de dormir au moins 6 heures par jour, quand même.
Sinon, tu sens que t'es pas aussi bon.
Dormir, c'est très important pour moi. Je veux pas cuisiner quand je suis un peu fatigué, entre guillemets. On peut professionnellement, mais je sais que t'es pas au top, donc en fait, je préfère pas.
Est-ce que la cuisine, est-ce que tu as perçu la cuisine dans ta formation comme un univers difficile? Est-ce que tu as eu des. Tu as eu affaire à des comportements un peu.
Évidemment, déplacés? C'est difficile, mais en même temps, pour ça, il y a toujours challenge. Évidemment, pour ça, je m'intéresse. Et pour ça, il y a tellement d'espace pour un étranger qui vient de Japon comme ça. Vu que c'est compliqué, je pense. Après, des fois, ça peut être juste simple, mais. Même cette diversité qui nous tient toujours, qui ne laisse pas, voilà. Je me dis jamais genre, ah ok, j'ai compris la cuisine, donc c'est bon. Mais je suis toujours curieux, je suis toujours intéressé, même plus qu'avant. Puis pour ça, j'aime même la cuisine plus qu'avant aussi. Un truc génial, quoi.
Tu es jeune papa depuis un an. Est-ce que c'est difficile de concilier vie de famille et restaurateur, et métier
J'adore
de restaurateur?
J'adore ce sujet parce que...
Plein de choses à dire.
Ouais, mais petit bébé, c'est quand même quelque chose que j'avais jamais pensé, jamais imaginé. Puis c'est arrivé comme ça. Puis c'est tellement content. Et contrepartie, ça peut être très, très difficile. Surtout au départ, j'avais pas eu bonheurisme. J'ai pas saisi bonheurisme et tout. Donc, j'étais un petit peu perdu aussi quelque part, mais il est toujours là. Puis aujourd'hui, je suis quand même content que je fasse des purées en week-end pour lui. Quand je cuisine bien pour lui, même purée, je me dis pas genre, ah oui, carotte bouillie mixée. Mais des fois, je mets un petit peu de beurre, des fois je mets pointe de sel, 2 grains de fleur de sel. Le petit, il s'éclate, il arrête pas de genre, voilà. Et puis avec lui, j'ai juste senti pourquoi je cuisine et pourquoi... En fait, c'est juste l'échange comme ça. Puis c'est très direct parce qu'il est devant toi, devant moi, pardon, il est devant moi et il me regarde. Voilà, on est fils, père et fils. Puis j'adore cette expérience. Et en même temps, quotidien, évidemment, c'est compliqué parce que même si j'étais dehors jusqu'à 4 heures du matin et puis il est 8h30, il faut que on se réveille pour amener à la crèche. Voilà, on fait mise en place au restaurant. Après, je reviens, genre, 18h, juste avant le service, à la maison pour chercher à la crèche. Puis
tu
déjà.
Tu t'arranges pour le voir. Enfin, t'as adapté ton emploi du temps aussi pour.
Évidemment, ouais.
Pour profiter de lui. Et...
Mais quand même, évidemment, c'est difficile, mais je suis content que dans la journée, ce que je pense, c'est « Ah, ok, bientôt 18h, je vais aller le voir. » Tu vois, ouais. Donc, c'est content. Mais par contre, peut-être mon corps, il est en train de dire des fois...
« Je suis fatigué. »
c'est ça, il est en train de dire « T'es fatigué, attention. » Oui, voilà. Donc, c'est peut-être difficile, mais pas que, voilà.
T'arrives quand même à ouvrir un autre restaurant.
Déjà ça, donc. Mais franchement.
Et avoir des projets annexes.
Franchement, le resto, je le considère comme un bébé, en fait. Donc, Dessus, c'était mon premier bébé. Et donc, au départ, il fallait tout soigner, il fallait rester tout le temps, même quand il dort. Ça veut dire, même au week-end, j'allais dans la cuisine pour faire préparation pour le lendemain et tout. Mais aujourd'hui, il a commencé à marcher un petit peu tout seul. Donc, je garde ses mains, surtout je garde un main, mais je lâcherai jamais parce que c'est mon bébé aussi. Mais deuxième, c'était mon bébé physique, donc, mon bébé humain même. Donc, ça fait qu'un an qu'il est là et puis pour l'instant, voilà, il va bientôt commencer à marcher. Mais encore 5-6 ans, on ne peut jamais être tranquille comme un restaurant d'ailleurs. Puis du coup, en fait, je suis en train de donner la naissance à un nouveau restaurant. Ça sera le troisième bébé.
Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui?
Toujours ma passion. Parce que j'aime ça. Des fois, je me dis, si je n'avais pas fait cuisine, peut-être mon cœur... Des fois, c'est stressé quand même. On est stressé. Je pense que je n'aurais pas eu cette stress et tout. Mais quand même, en fait, j'aime tellement ce qu'on a autour de cuisine, ce que je fais. Et quelque part, je suis tellement content. Donc, je pense que c'est... juste passion qui me tire toujours devant. Puis même cheval d'or, peut-être on n'a pas besoin de le faire, mais en fait j'ai envie de m'exprimer encore autrement que d'ailleurs. Puis je veux bien encore être lié avec Paris, la ville de Paris. Puis je pense qu'on m'a donné tellement de chance, on m'a donné opportunité, puis vous êtes super gentil. J'ai envie de faire je dois beaucoup au monde en fait. Puis je vois surtout ça aussi avec les bébés. Puis je dois beaucoup. J'ai bien appris, je suis content. J'étais dans un environnement assez correct. Puis je pense que je me suis tapé assez dedans. Mais je dis, c'est mon tour que. Voilà, je dois bouger les choses. Puis j'espère que ça va bouger en bon sens. Puis j'ai envie de faire. Puis. Je pense que j'ai assez de couilles pour faire ça.
Bon, c'est la fin. Et okay. On commence à avoir une petite fin. Est-ce que tu as une recette à nous donner? Recette de la maison, hein?
Recette de la maison.
Pas de Darzou.
D'accord. J'aime bien acheter bon œuf. Puis souvent, on fait omelette avec un petit peu de crème et tout. Mais du beurre et les œufs, c'est magnifique. Puis on met même pas la crème et puis on met beaucoup de beurre. Et puis là-dedans, tu mets les œufs cassés. Je fais presque rouillé, mais vraiment coulant. Puis je le considère un peu comme les œufs soupe d'œuf. Puis un peu cuite, un peu prise, mais il y a tellement de beurre, donc c'est jamais sec que tout. C'est très très bon. Puis un coup de sel, c'est tout.
Parfait, merci beaucoup.
Merci.
Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous au Dersou, au 21 rue Saint-Nicolas, dans le 12e arrondissement, ou tout bientôt, au Cheval d'Or, 21 rue de la Villette, dans le 19e. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez. Musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'À Poil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone, sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles comme un certain guide gastronomique.